Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Gittin, page 42, Daf Membet. Bonne écoute et bon limoud.
Il s'agit dans la Mishnah d'un esclave qui appartenait au départ à deux associés et l'un des associés a affranchi, a libéré sa part. Puisque finalement, cet associé a libéré entièrement ce qui lui appartenait, dans ce cas, même l'affranchissement partiel sera valable. Nous avons fini ici le shiur de Gittin Daf Mem Aleph. Nous commençons le shiur de Gittin Daf Mem Bet à la deuxième ligne du haut de la page. Nous avons vu précédemment une discussion entre Rebbi et les Chachamim concernant l'affranchissement partiel de l'esclave. Selon Rebbi, l'affranchissement partiel existe. Selon l'avis de Chachamim, l'affranchissement partiel n'existe pas. Amar Rabba, Rabba dit là-dessus, Machloket Beshechirer Chetio Venia Chetio. La discussion entre Rebbi et Rabbanan est dans le cas où le maître a affranchi la moitié de l'esclave et le reste, il l'a gardé sous son autorité. Aval Shechirer Chetio Machar Chetio. Mais si il a libéré la moitié de l'esclave et il a vendu l'autre moitié à quelqu'un d'autre, on attend de matana chetio, ou bien il a donné l'autre moitié en cadeau à quelqu'un d'autre, qui vend des kanafik miné coulé, puisque cet esclave quitte entièrement l'autorité de son maître, divré à kol kana, tout le monde est d'accord que cet esclave a acquis la moitié de sa personne. C'est-à-dire de la même manière qu'il a le maître a la possibilité de vendre la moitié de cet esclave à quelqu'un d'autre, cette vente sera valable quand il donne la seconde moitié à son esclave, donc il l'affranchit à moitié, cet affranchissement partiel sera aussi valable. Amar le Abaye, Abaye a dit à Rabba, lui a posé la question suivante, ou Bekulo l'obligé, n'y a-t-il pas de discussion entre Rabbi et Chachamim dans le cas où l'esclave quitte entièrement l'autorité de son maître? Quand même, il y aurait donc une discussion concernant l'affranchissement partiel. Ve'ata nechada, voici que nous voyons dans une braïta. Hakotev nechasav leshne avadav, c'est lui qui écrit deux documents dans lesquels il donne tous ses biens à ses deux esclaves. Il a donné ces deux documents à ses esclaves par l'intermédiaire d'un émissaire. Il a fait donc cet acte d'acquisition pour ses deux esclaves en même temps. Kanu, ils ont acquis, ces deux esclaves ont donc pris possession de tous les biens et ils devront se les partager. Ou meshacherim zeedze, et ils s'affranchiront mutuellement. Et cela parce que chacun a acquis la moitié de sa propre personne et aussi a acquis par la même occasion la moitié de l'autre esclave. Donc pour pouvoir prendre possession des biens, ils devront aussi s'affranchir mutuellement. En tout cas, nous voyons dans cette braïta que l'affranchissement partiel est valable puisque cet esclave a quitté entièrement l'autorité de son maître. Vetania Idar, il a été enseigné dans une seconde braïta. Haomer kol nechasai netunim le ploni ou ploni avadai, celui qui dit que tous mes biens soient donnés à un tel et un tel mes esclaves, af atzmam lokanu, ils n'ont même pas acquis leur propre personne. Et cela même s'il l'a fait par le moyen d'un document. Donc, comment interprétera-t-on ces braïtot? Mailav harebi, n'est-ce pas que nous dirons que l'auteur de la première braïta est Rebbi, selon lui, l'affranchissement partiel est valable. Veharabanan est la seconde braïta suit l'opinion de Chachamim. Selon eux, l'affranchissement partiel n'existe pas, et cela, même si cet esclave a quitté entièrement l'autorité de son maître. L'agmara répond, il dit lo, idi veidi rabanan. Toujours pourrais-je te dire que les deux braïtot suivent l'opinion de Chachamim. Mais seulement, c'est ainsi qu'il faut interpréter ces braïtot. Ha damar kulo. Dans la première braïta, il s'agit d'un cas où dans ses documents, le maître a donné la totalité de ses biens à chacun de ses esclaves. Puisque ces deux documents ont été transmis en même temps à ses esclaves par l'intermédiaire d'un émissaire, comme nous l'avons expliqué plus haut, forcément, ils devront partager ses biens. Et ils ont donc chacun pris possession de la moitié de leur propre personne et de la moitié du second. Puisque ces esclaves ont entièrement quitté l'autorité de leur maître, l'affranchissement partiel sera valable. Hadamar chetzi chetzi. Dans la seconde braïta, il s'agit d'un cas où il a donné deux documents donc à ses deux esclaves. Dans chacun de ces deux documents, il était écrit « Je donne la moitié de mes biens à mon esclave. Dans ce cas, ils n'ont pas acquis leur propre personne, ils n'ont pas été affranchis, et donc ils n'ont rien acquis du tout. Et cela, non seulement dans le cas où ces deux documents ont été donnés séparément, donc l'un après l'autre, à ces deux esclaves, parce que dans ce cas, nous pouvons dire qu'en fait, il a voulu donner la même moitié à ces deux esclaves en gardant la moitié de ses biens pour lui. Par conséquent, donc, il se trouve qu'il a affranchi chacun de ses esclaves à moitié en gardant l'autre moitié pour lui. Nous avons vu plus haut que selon l'avis de Chachamim, il n'existe pas d'affranchissement partiel. Mais même s'il a donné ces deux documents en même temps à ses deux esclaves, on ne peut donc pas dire qu'il a voulu donner la même moitié à ses deux esclaves. Quand même, ce cadeau n'est pas valable. Et cela parce que la Gemara rapportera plus loin une Mishnah dans Péa, dans laquelle il a été enseigné que celui qui fait cadeau de tous ses biens à son esclave en excluant une partie de ses biens, nous disons que puisqu'il a exclu une partie de ses biens de ce cadeau, il a voulu aussi exclure le don de la personne de l'esclave. En d'autres termes, il n'a jamais voulu affranchir l'esclave. Par conséquent donc, ses esclaves n'ont rien acquis. Alors la Gemara demande, Veham idekatan esefa, voici qu'il est écrit à la suite, à la fin donc de cette seconde braïta, de Imamar Chetzi Chetzi Lokanu, et s'il a écrit dans ces deux documents, je fais don de la moitié de mes biens à mes esclaves, ils n'ont rien acquis. Miklal de Rechada Markulo, on peut donc déduire que le début de la braïta, il s'agit d'un cas où il a fait cadeau de tous ses biens à ses esclaves, et quand même, ce don, ce cadeau n'a pas pris effet. Finalement, donc, nous serons obligés de dire que cette seconde braïta suit l'opinion de Rabbanan, alors que la première braïta suit l'opinion de Rebbi, comme nous avons voulu le dire. Ma réponse, Perushé Kamefaresh. La fin de la braïta explique le début de la braïta. C'est-à-dire, Af Atzman Lokanu, s'il a écrit que tous mes biens soient donnés en cadeau à mes esclaves, ces esclaves n'ont rien acquis du tout, Ketzad, dans quel cas s'agit-il, que Gondamar Chetzi Chetzi, dans le cas où il a écrit dans ces deux documents, je fais don de la moitié de mes biens à mes esclaves. Hachinami Mistabra, effectivement, il est logique d'interpréter ainsi la Braïta, dit Alkarata Rechada Makulo, parce que si tu penses que dans la Braïta, au début de la Braïta, il s'agit d'un cas où il a fait don de la totalité de ses biens à chacun de ses esclaves. Et quand même, ce cadeau n'est pas valable parce qu'il s'agit d'un affranchissement partiel comme nous avons lu l'expliquer. Alors si c'est comme ça, Hashta Amakulo Lokanu, si déjà dans le cas où il a fait don de la totalité de ses biens à ses esclaves, quand même, ils n'ont pas acquis ce cadeau n'est pas valable. Amar Chetzi Chetzi Mivaya, est-ce que la Breta a besoin de nous enseigner par la suite que s'il a fait cadeau de la moitié de ses biens à chacun de ses esclaves séparément, que ce cadeau n'est pas valable? Forcément donc, nous devons dire que la fin de la Braïta explique le début de la Braïta, comme nous avons voulu le dire. Agmar refute, imishum halo iria. Si c'est à cause de ça, ce n'est pas une preuve, parce que on peut dire, tana sefa legilu yerecha. La fin de la Braïta parle du cas, donc la fin de la Braïta nous enseigne le cas de celui qui a fait cadeau de la moitié de ses biens à chacun de ses esclaves séparément, c'est pour nous dévoiler la loi au début de la Braïta. Chez l'Otomar, pour ne pas que tu dises Rechada Machetzi Chetzi, que dans le début de la Braïta, il s'agit d'un cas où il a fait don de la moitié de ses biens à chacun de ses esclaves séparément, Avalamar Kulokanu, mais s'il avait fait cadeau de la totalité de ses biens à chacun de ses esclaves, ils auraient acquis ce cadeau et ils auraient été affranchis. C'est pour cela, Tana Sefa, à la fin de la Braïta, il a été enseigné, Damar Chetzi Chetzi, le cas où il a fait cadeau de la moitié de ses biens à chacun de ses esclaves. Et donc, comme nous l'avons expliqué, ce cadeau n'est pas valable. Miklal Derecha Damar Kulo. De là, nous déduirons que, au début de la Braïta, il s'agit d'un cas où il a fait cadeau de la totalité de ses biens à chacun de ses esclaves, Vafilo Achilo Kanu, et même, dans ce cas, ils n'ont pas acquis ce cadeau. Et cela, comme la Gemara a voulu l'expliquer plus haut, c'est que cette Braïta suivrait l'opinion de Chachamim. Par conséquent, donc, un affranchissement partiel n'existe pas, même s'il a donné l'autre moitié à quelqu'un d'autre. Finalement, nous ne pourrons donc pas prouver que dans cette braïta, il s'agit d'un cas où il a fait cadeau de la moitié de ses biens à chacun de ses esclaves séparément. Et c'est la raison pour laquelle ce cadeau n'est pas valable. Mais dans le cas où il a fait cadeau de la totalité de ses biens à ses esclaves, même les chachamim seraient d'accord que ce cadeau est valable. Vibaitema, et si tu veux, je donnerai une autre réponse à cette contradiction dans les deux braïtot. L'akashia, il n'y a pas de contradiction entre ces braïtot. Kan beshtar echad, dans la seconde braïta, il s'agit d'un cas où ce cadeau à ces deux esclaves a été écrit dans un seul document. C'est la raison pour laquelle ce cadeau n'est pas valable, parce que les lois de l'affranchissement de l'esclave s'apprennent des lois du divorce. De la même manière qu'on ne peut pas divorcer deux femmes par le même acte de divorce, il faudra un acte de divorce séparément pour chaque femme. Pour l'affranchissement de l'esclave aussi, il faudra un titre d'affranchissement séparément pour chaque esclave. Puisque l'affranchissement de ces esclaves a été écrit dans le même document, celui-ci ne sera pas valable. C'est la raison pour laquelle donc que ce cadeau n'est pas valable. Kan Beshne Shtarot, par contre dans la première braïta, il s'agit d'un cas où ces cadeaux ont été écrits dans deux documents séparés. C'est la raison pour laquelle ce cadeau est valable, parce que même les Chachamim seraient d'accord que l'affranchissement partiel est valable si la seconde moitié a été donnée à quelqu'un d'autre. La Gemara demande, Beshtar Echad, s'il s'agit dans la seconde Braïta d'un cas où ces cadeaux ont été écrits dans un seul document, Ma'iria Chetzi Chetzi, pourquoi est-ce que cette loi ne s'applique que dans le cas où ce cadeau, il a donné la moitié de ses biens séparément à chacun de ses esclaves. Parce que, comme nous l'avons cité plus haut, la fin de la Braïta nous parle de ce cas. Afilo Amar Kulonami, même s'il avait fait don de la totalité de ses biens à ses esclaves aussi, Lokanu, il n'aurait pas acquis, ce cadeau n'aurait pas été valable, parce que l'affranchissement de ses esclaves a été écrit dans un seul document. Magma répond, Hachinami Kamar, effectivement c'est cela que la Braïta voulait nous dire. Af Atzman Lokanu, ils n'ont même pas acquis leur propre personne, en d'autres termes, ils n'ont pas été affranchis et ils n'ont pas pris possession non plus du cadeau des autres biens. Bam et dvarim amurim beshtar echad, quand ces choses sont dites, c'est quand ce cadeau a été écrit à ces deux esclaves dans un seul document. Aval beshne shtarot kanu, mais si ce cadeau avait été écrit dans deux documents séparés, ils auraient acquis leur propre personne, ils auraient été affranchis et ils auraient aussi acquis le cadeau. Ve'im amar chetzi chetzi, mais si il a fait cadeau de la moitié de ses biens séparément à chacun de ses deux esclaves, Av Beshne Shtarot Nami Lokanu, même si ce cadeau avait été écrit dans deux documents, ce cadeau ne sera pas valable. Et cela pour les raisons que nous avons expliquées plus haut. Viva Itema, et si tu veux, j'interpréterai cette contradiction entre les braïtot d'une autre manière. L'akashia, il n'y a pas de contradiction entre ces deux braïtot. Kan Bebatachat, dans la première braïta, qui nous enseigne que le cadeau est valable. Il s'agit d'un cas où les deux documents ont été transmis simultanément à ces deux esclaves, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'un émissaire. Ils ont donc pris possession en même temps de tous les biens. Ils ont été donc chacun affranchis à moitié. La seconde moitié a été donnée cadeau au second. Et ils ont aussi pris possession du reste de ces biens. Kan Beze Acharze, dans la seconde braïta qui nous enseigne que le cadeau n'est pas valable, c'est dans le cas où il a transmis ces deux documents l'un après l'autre. Par conséquent, donc, ce cadeau n'est pas valable. Alors la Gemara demande pourquoi. Bishlama Batra Lokane, on comprend bien encore que le dernier n'a pas acquis ce cadeau de Hakane Lekama. Et cela parce que le premier déjà a pris possession de tous ses biens, et finalement, tous les biens lui appartiennent. Et la Kama, mais le premier esclave, c'est-à-dire celui qui a reçu le cadeau en premier, l'ikne nafshe, v'likneye lechavre, il n'a qu'à acquérir sa propre personne, c'est-à-dire il n'a qu'à être déclaré affranchi, et aussi il devrait acquérir son collègue, le deuxième esclave. Pourquoi est-ce que ce cadeau n'a pas pris effet concernant celui qui a reçu le cadeau en premier? Magma répond, et là, pour cela, mechavarta, kedeshaninal meikara. Les meilleures réponses, c'est celles qu'on a dit plus haut, parce que celle-ci n'est pas bonne. Rabashi Amar, Rabashi propose une autre réponse à cette contradiction entre les braïtot. Shani Atam de Kakarele Hu Avadai. Dans la seconde braïta, il a précisé qu'il donnait ses cadeaux à ses esclaves. En d'autres termes, il a voulu préciser qu'il leur donnait ce cadeau, mais qu'il resterait ses esclaves. C'est pour cela que ce cadeau n'est pas valable. Amarle, Ravram, le Ravashi, Vedilma Avadai, Shehayukvar. Peut-être que quand il parle de ses esclaves, en fait, ce qu'il a voulu dire, c'est ce qui était auparavant ses esclaves. Milotnan, n'avons-nous pas enseigné dans une Mishnah, dans Pea Peregimel, Hakotev, Kol Nechasav, le Avdo, celui qui fait cadeau de tous ses biens à son esclave, Yatsa le Chirut, celui-ci est affranchi, et en même temps, il a acquis tous les biens de son maître. Shier Karka Kolchiou, mais s'il a laissé même un petit terrain qu'il n'a pas donné à cet esclave, Lo Yatsa le Chirut, celui-ci n'est pas affranchi. Et cela parce que nous disons que de la même manière qu'il n'a pas fait cadeau de ce petit terrain, il n'a pas voulu faire cadeau non plus de la personne de cet esclave. Il n'avait jamais voulu l'affranchir. Finalement, cet esclave reste dans la possession de son maître et les biens aussi. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, le Olam hu ben Chorin. Nous dirons toujours que cet esclave a été affranchi, ce cadeau a pris effet, sauf le terrain que le maître ne lui a pas donné. Atche Omar, jusqu'à ce que le maître dise ou écrive dans ce document, Kol Nechasan Etunim le Ploni Abdi, tous mes biens sont donnés en cadeau à un tel mon esclave, Chutz Mechad Miribo Shebaem, à part un dix millième de mes biens. Et cela, puisqu'il n'a pas défini la partie des biens qu'il n'a pas voulu donner à cet esclave, nous disons en fait que ce qu'il a voulu dire, c'est que son esclave vaut pour lui un dix millième de sa fortune. Par conséquent donc, c'est cet esclave qu'il n'a pas voulu affranchir. Il reste donc dans la possession de son maître et les biens aussi. Donc finalement, l'avis de Rabbi Shimon est que ce n'est que dans le cas où il a exclu de ce cadeau un dix millième de sa fortune ou une partie non définie de sa fortune. Ha lo amarachi, mais s'il n'avait pas dit ainsi, kané, cet esclave aurait acquis tous ses biens et sa personne aussi. La Gemara se pose la question, Amai pourquoi? Voici que dans ce document il écrit, voici je fais cadeau de tous mes biens à un tel mon esclave. Et là, forcément donc nous devons dire, Avdi Shehayakva, ce qu'il a voulu dire, je fais cadeau de tous mes biens à un tel qui avait été mon esclave. Mais en fait maintenant je l'affranchis. Hachanami, ici dans cette braïta aussi nous dirons, Avadai Shehayukva. Quand il fait cadeau de ses biens à ses esclaves, c'est en fait, il fait cadeau à ceux qui avaient été ses esclaves. Mais en fait, maintenant, il les a affranchis. En conclusion donc, la réponse de Ravashi aussi a été réfutée. Il ne nous reste donc que les deux premières interprétations. La Gemara va traiter des questions différentes relatives aux mi-esclaves, mi-libres. Alors, première question, Nagro Shor. Si un taureau a encorné cet esclave et l'a endommagé, il l'a blessé. Yom shel rabo, les rabots, s'il l'a encorné le jour où il travaille pour son maître, c'est son maître qui empoche le dédommagement. Et cela parce que de la même manière que ce jour il travaille pour son maître, tout ce qu'il gagne revient aussi à son maître. Yom shel atzmo, le jour où il travaille pour lui-même, le atzmo, il empoche ses dédommagements. La Gemara demande. Et la Meata, si c'est ainsi, Yom Shel Rabo Issa Shifra, le jour où il travaille pour son maître, il aurait le droit de se marier avec une servante. Yom Shel Atzmo Issa Bat Chorin, et le jour où il travaille pour lui-même, il aurait le droit de se marier avec une femme libre. Puisque finalement, nous décidons que le jour où il travaille pour son maître, il est considéré esclave, et le jour où il travaille pour lui-même, il est considéré libre. Ma réponse, Issura Lokam Rinan. On ne parle pas d'interdiction. C'est-à-dire, cet esclave finalement est constamment mi-esclave, mi-libre. Il ne peut donc se marier ni avec une esclave, ni avec une femme libre. Par contre, quand il s'agit de questions monétaires qui ont été partagées entre lui-même et son maître, donc le jour où il travaille pour son maître, tout ce qu'il gagne comme argent revient à son maître, tout ce qu'il gagne le jour où il travaille pour lui-même reviendra à lui-même. Alors la Gemara dit, Tashma, viens écoute une preuve d'une braïta. Hemit mi shechetio eved vechetio ben chorin. Si un taureau qui a été déclaré encorneur, c'est-à-dire qui a encorné et tué des personnes à trois reprises et qui a été mis en garde, et celui-ci a tué maintenant un mi-esclave, mi-libre. À part le fait que ce taureau doit être mis à mort, notem chatzi knas le rabo. Le propriétaire de ce taureau devra verser la moitié de l'amende réglementaire pour le taureau encorneur qui encorne un esclave, devra le verser à son maître. En effet, le taureau qui encorne un esclave doit payer une amende de 30 shkalim.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Sur la page Adaf Membet Amudbet. Vechatzi kofer le yorshav est la moitié du rachat de sa personne aux héritiers de cet esclave. La Gemara expliquera plus loin, Daf Mem Gimel, quels sont les héritiers de cet esclave. En tout cas donc, le propriétaire de ce taureau devra payer la moitié de la valeur de cet esclave à ses héritiers. Et cela comme dans le cas du taureau en corner qui a tué une personne libre. La Gemara demande, Amai, pourquoi c'est ainsi? Ici aussi, nous devrions dire la même chose que nous avons dit plus haut. Yom shel rabo, le rabo, si cet esclave avait été encorné le jour où il travaillait pour son maître, alors son maître aurait dû empocher la totalité de l'amende. Yom shel atzmo, et s'il avait été encorné le jour où il travaillait pour lui-même, l'atzmo, il aurait dû, ou lui ou ses héritiers, empocher entièrement le rachat. Le rachat du propriétaire du taureau, c'est-à-dire la valeur de l'esclave. Lagma répond, Shani acha de kakalia karna. Ici c'est différent, on ne peut pas tenir compte de ce partage parce que le capital est perdu entièrement. C'est-à-dire dans le cas où l'esclave gagne quelque chose, même si c'est par le moyen d'une blessure passagère, alors il faudra tenir compte de ce partage et si ça arrive le jour où il travaille pour son maître, celui-ci empochera le dédommagement. Par contre, quand il s'agit d'un cas où cet esclave a été tué, le capital est perdu entièrement, il faudra donc partager entre l'esclave et le maître. On ne pourra pas tenir compte du jour où c'est arrivé. La Gemara demande, « Vela hechidami de loka kaliakarna » Alors, quel cas s'agit-il où le capital n'est pas perdu? La Gemara répond que « Gonchi ikau aliado » Il s'agit d'un cas où ce taureau a frappé, blessé cet esclave à sa main, « Vetsamta yado vesofa larzo » Et sa main s'est affaiblie de manière à ce qu'il ne puisse plus l'utiliser pour travailler, mais cette blessure guérira. Ce capital donc n'a pas été perdu. Parce que s'il s'agissait d'un cas où sa main avait été coupée, cette partie de l'esclave est perdue pour toujours. Il aurait dû donc partager entièrement le dédommagement avec son maître. Alors dans ce cas où cette blessure sera guérie, Hanichal Abaye, on comprend bien selon l'opinion d'Abaye, qui a été enseigné dans Masechet Bava Kama de Amar, qui dit, dans un cas pareil, Noten lo shevet gdola ve shevet ktana. Celui qui blesse son collègue à sa main, de manière à ce qu'il ne puisse plus l'utiliser pendant un certain temps, mais cette blessure guérira, il devra tout d'abord payer sa perte de valeur, qui a été causée par le fait qu'il ne pourra pas utiliser sa main pendant un certain temps. Ceci est considéré comme Nezek, donc dédommagement, a payé l'appel Shevek Dolar, parce que finalement, c'est la perte en valeur est due à un arrêt de travail. Et en plus, il devra payer l'arrêt de travail, c'est-à-dire, même si après que cette blessure soit guérie partiellement, il pourrait travailler en tant que gardien, par exemple, qui n'est pas très bien payé, mais pendant un premier temps, il ne peut même pas travailler cela. Il est obligé de rester alité. Donc cet arrêt de travail devra être aussi payé par cette personne. Alors Shapir, nous pouvons aussi appliquer cette loi ici. C'est-à-dire, même si le taureau ne doit pas payer l'arrêt de travail, il doit simplement payer les dommages directs causés par sa blessure. Mais dans ce cas où il doit payer, selon l'avis de Abaye, la perte de valeur, dû au fait qu'il ne peut pas travailler pendant un certain temps, le propriétaire du taureau aussi devra payer cela. Et là, les Rava, par contre, selon l'opinion de Rava, d'Amar, et non le tenloela, shivto shebchol yom vayom, selon l'opinion de Rava qui dit que dans un cas pareil, celui qui a endommagé son collègue de cette manière ne devra payer que son arrêt de travail de tous les jours. C'est-à-dire, pendant un premier temps, il devra payer et le dédommager pour arrêt de travail complet. Et par la suite, quand il pourra commencer à travailler, il devra payer la différence entre son travail normal et le travail qu'il pouvait faire. Donc finalement, selon l'opinion d'Abaye, tout dédommagement dans le cadre de ce genre de blessure qui guérira par la suite et qui ne laissera pas de séquelles, il y a simplement l'arrêt de travail qui est payé. C'est un dommage indirect. Par conséquent donc, Haishorhu, ici, puisqu'il s'agit d'un dommage, d'une blessure causée par un taureau, Veshor, Eno Meshalem, Elanezek, le taureau ou le propriétaire du taureau ne doit payer que les dommages directs et non pas les dommages indirects, comme l'arrêt de travail. Donc finalement, dans quel cas se pose notre question? La Gemara répond, Iba et Tema, si tu veux, je te dirai que cette question s'est posée chez Ikaou Adam, quand c'est un homme qui a blessé cet esclave. S'il l'a blessé le jour où il travaille pour son maître d'une blessure qui guérira par la suite, les dédommagements reviendront au maître. Et s'il a été blessé le jour où il travaille pour lui-même, les dédommagements reviendront à cet esclave. Viba et Tema. Et si tu veux, j'interpréterai cette question différemment. Même Rahi, cette loi qui a été enseignée concernant l'esclave qui a été blessé par le taureau à sa main, a été enseignée par un Amora. Ou même Ra le Rava l'Osviralé, et Rava n'est pas d'accord avec cet enseignement. Parce que selon lui, le dédommagement pour une blessure passagère ne rentre pas dans le cadre d'un dédommagement pour dommage direct, mais c'est le dédommagement pour arrêt de travail qui ne doit pas être remboursé par le propriétaire d'un taureau qui l'aurait fait. Pour cela donc que Rava n'est pas d'accord avec cet enseignement. Et puisque Rava est en droit de discuter avec cet enseignement, on ne peut donc pas réfuter l'opinion de Rava à partir de cet enseignement. Ibaya lehu, la Gemara s'est posé une autre question. Me'ukav get shichru, celui qui n'a pas encore obtenu le titre d'affranchissement. Par exemple, l'esclave qui a été sanctifié par son maître, ou bien dont le maître s'est dépossédé de ses droits. Bien qu'ils soient considérés libres, ils ont besoin de recevoir le titre d'affranchissement pour avoir la permission de se marier avec une bat Israël. Dans ce cas, la Gemara se pose la question suivante. Yesh lo knas, est-ce que si un taureau encore neuf l'a encore né, le propriétaire de ce taureau doit verser au propriétaire de l'esclave l'amende prévue pour ce cas, c'est-à-dire l'amende de 30 shekels, ou en lo knas, ou bien puisque celui-ci n'est pas considéré comme un esclave, mais une personne libre, le propriétaire de ce taureau ne devra pas verser l'amende. Alors la Gemara précise, puisqu'il est écrit dans Shemot Kafalef, dans le paragraphe concernant le taureau encore neuf qui a encore né l'esclave, le pasouk dit, Kesef Shloshim Shkalim Iten La Adonav Amarachmana. Le pasouk nous dit, il versera la somme de 30 shekels à son maître. Vehailav Adonohu. Celui-ci n'est pas considéré le maître de cet esclave, puisqu'il n'est plus sous son autorité. Odilma Kivan de Mukhusar Getchirhu, ou bien, puisqu'il a encore besoin de recevoir le titre d'affranchissement, Adon Karinabe, on appellera son maître, son propriétaire, nous l'appellerons Adon, maître. L'Agma répond, Tashma vient coûte une preuve d'une braïta. Une braïta que nous avons citée plus haut, Hemit, mi shechetio eved chetio ben chorin. Si le taureau en corner a encore né un esclave, mi libre, noten chatzik nas le rabo, le propriétaire du taureau devra verser la moitié de l'amende au maître de cet esclave, chatzik ofer le urshav, et la moitié du rachat de sa personne, donc la moitié de la valeur de cet esclave, aux héritiers de celui-ci. Maïlav kemishna harona, n'est-ce pas que cette braïta a été enseignée après le dernier enseignement de la Mishnah qui dit que le mi-esclave, mi-libre, devra forcément être libéré par son maître. Finalement donc, il s'agit d'un esclave qui a quitté l'autorité de son maître et qui attend d'obtenir le titre d'affranchissement. Elle m'a répondu, Lo kemishna rishona, cette braïta a été enseignée à la suite du premier enseignement de la Mishnah, où les Chachamim n'obligeaient pas le maître de cet esclave à l'affranchir. Il pouvait travailler un jour pour son maître et un jour pour lui-même. Finalement, il ne s'agit pas d'un cas d'un esclave qui n'est plus sous l'autorité de son maître. Tashma, la Gemara continue, viens écoute une preuve d'une braïta. Nous avons appris dans le Passouk, dans Parashat Mishpatim, que si le maître blesse son esclave au point qu'il perde l'usage de son œil ou bien qu'il lui arrache une dent, celui-ci est affranchi d'office. D'ailleurs, dans la Gemara, dans Kiddushin Daf Kaf Dalet Amud Bet, il était enseigné que si le maître sectionne le bout d'un des membres de son esclave, par exemple l'un de ses doigts, celui-ci aussi est affranchi d'office. En la Bretta nous enseigne, Hipil et Chino Vesima et Teno. Si le maître a arraché la dent ou fait tomber la dent de son esclave, et aussi lui a crevé l'œil, Yotse Beshino, il est affranchi d'office parce qu'il a perdu sa dent, Venoten de Meeno, et en plus, et le maître doit le dédommager pour la perte de son œil. Vei Amart Yeshlo Knas, Veknas le Rabo. Et si tu dis que l'esclave qui doit encore recevoir le titre d'affranchissement donne suite à une amende, si celui-ci est encorné par un taureau encorneur, et cette amende revient à son maître, alors nous ne le comprenons pas. Hashta Chavle Beacharine, si déjà quand d'autres blessent cet esclave Yahavele le Rabé, il paye les dédommagements au maître de cet esclave, parce que celui-ci n'a pas encore obtenu le titre d'affranchissement. Chavalbe Rabé Goufé, si son maître lui-même l'a blessé, Yahivle Lédidé, il doit dédommager l'esclave. Parce que la Gemara comprend ici que celui qui a été blessé par son maître au point de perdre l'usage de son œil ou de sa dent doit encore obtenir le titre d'affranchissement pour être libre. La Gemara répond, Dilma Kemandamar et Notsarir, peut-être que cette Braïta suit l'opinion de celui qui dit que si l'esclave a été blessé par son maître au point de perdre l'usage de son œil ou de sa dent, est affranchi d'office, il n'a même pas besoin de titre d'affranchissement. Par conséquent donc, si le maître l'a blessé par la suite, par exemple s'il a blessé son œil en plus, il devra le dédommager pour la perte de son œil. De Tania, parce qu'il a été enseigné dans une braïta. Bekulan eved yotzel bahen lecherut. Par la perte de n'importe lequel des 24 bouts des membres enseignés dans Maseret Negaim Perekvav. Si c'est son maître qui l'a fait, il s'agit notamment des doigts et des orteils, du nez, de l'oreille. L'esclave est affranchi d'office. Vetsarir getchicho merabo. Cependant, il aura besoin d'un titre d'affranchissement pour avoir la permission de se marier avec une Batisraël. Divrei Rabbi Yishmael, ce sont les paroles de Rabbi Yishmael. Rabbi Meir Omer et Notsarir. Rabbi Meir Omer, il est affranchi d'office, il n'a même pas besoin de titre d'affranchissement. Rabbi Lazar Omer, Tsarir. Rabbi Lazar a dit qu'il a besoin d'un titre d'affranchissement. Rabbi Tarfon Omer et Notsarir. Lui dit qu'il n'a pas besoin de titre d'affranchissement. Rabbi Akiva Omer, Tsarir. Rabbi Akiva dit que il a besoin d'un titre d'affranchissement. Hamachriim lifne chachamim omrim. Les médiateurs en halacha devant les chachamim ont dit nivrim nirim divrei Rabbi Tarfon beshen ve'ain. Les paroles de Rabbi Tarfon semblent justes dans le cas où cet esclave a perdu sa dent ou l'usage de son œil. Donc c'est-à-dire dans ce cas, il n'aurait pas besoin de titre d'affranchissement. Hoil ve'Torah zartalo, parce que c'est la Torah qui a enseigné clairement que l'esclave est affranchi d'office. Védivrei Rabbi Akiva, et les paroles de Rabbi Akiva semblent justes, Béchar et Varim, dans le cas des autres membres. Dans ce cas donc, il aurait besoin de titre d'affranchissement, Hoil viknas chachamim hu, parce que c'est une amende des chachamim. La Gemara demande, knas, c'est une amende des chachamim, hakraek adarshinan. Voici que, dans la Gemara de Kiddushin, Daf Kavdalet, cela a été déduit par des psukim. Et la Emma, on dira que c'est ainsi que ces médiateurs ont voulu dire Hoil ou Midrash Chachamimu, parce que c'est une interprétation des Chachamim, ce n'est pas écrit clairement dans la Torah. C'est pour cela que nous dirons qu'ils auront besoin d'un titre d'affranchissement. Puisque nous voyons donc qu'il y a une discussion à ce sujet, nous pourrons dire que la Braïta précédente suit l'opinion de ceux qui disent que l'esclave qui a été blessé par son maître n'a pas besoin de titre d'affranchissement pour être libéré. Par conséquent, si le maître blesse un membre supplémentaire, il devra le dédommager pour cela. Ibayalehu, les Chachamim se sont posés une question. Mais Ukav Getchichu, celui qui a besoin d'un titre d'affranchissement pour avoir la permission de se marier avec une Bat Israël, Ochel Betruma, O Eno Ochel, est-ce qu'il a le droit de consommer de la Truma ou il n'a pas le droit? Enfin, la Gemara précise, puisqu'il est écrit dans le Passouk, dans Vaikra Kafbet, concernant celui qui a le droit de consommer de la Truma, donc l'esclave, Kinyan Kaspo Amarachmana. La Torah nous dit que l'esclave qui a été acheté par l'argent du Kohen pourra consommer de la Trouma. Vehailav Kinyan Kaspaou, celui-ci n'a pas été acheté par l'argent du Kohen parce que cet esclave n'est plus sous l'autorité de son maître. Finalement, il n'aurait pas le droit de consommer la Trouma. Odima, ou bien ce que nous dirons Kivan de Mukhusar Get Shikhur, puisqu'il a encore besoin d'obtenir le titre d'affranchissement pour avoir la permission de se marier avec une bat Israël, Kinyan Kaspo Karinabe, on pourrait quand même considérer cet esclave comme étant acheté par l'argent du Kohen. En d'autres termes, comme appartenant encore au Kohen, il aurait donc le droit de consommer la Trouma. L'Agma répond, Tashma, viens écoute une preuve. D'Amar Rav Mesharchia. Puisqu'il s'agit d'une Mishnah dans Yevamot Daf Tzaditet, il faudrait plutôt dire ici que c'est Rav Mesharchia qui a apporté cette preuve de cette Mishnah dans Yevamot. En tout cas, cette Mishnah dans Yevamot Daf Tzaditet nous enseigne. Kohenet Shenitarev Vlada Bevlad Shifrata. Une Kohenet dont l'enfant s'est mêlé au bébé de sa servante. On ne sait plus donc maintenant qui est l'esclave, qui est le Kohen. Harel ou Ochlim Bitrouma, ils pourront tous les deux consommer de la Trouma. Cependant, Vecholkin Chelek Echad à la Goren, ils ne recevront qu'une seule part dans la grange où on partage la Trouma. Et cela, comme la Gemara l'explique là-bas, que l'auteur de la Mishnah pense qu'on ne donne pas une part de Trouma à l'esclave sans que son maître soit présent. Puisque concernant ces deux enfants, nous avons un doute, lequel est Kohen et lequel est esclave, ils ne pourront recevoir qu'une seule part. Higdilu Ataruvot, quand ces mélanges grandiront, Meshachrim Zedze, ils s'affranchiront mutuellement. En tout cas, nous voyons dans cette Mishnah que même le cas d'un esclave qui ne peut pas être asservi par son maître, il n'est donc plus sous l'autorité de son maître, il est simplement dans une situation où il attend de recevoir le titre d'affranchissement, quand même il peut consommer la Trouma. L'Agma répond, Hachi Ashta, voyons voir. Hatamim Yavo Eliaou Viomar Bechad Minayou Devedhu, là-bas si Eliyahu Avi viendra et définira et nous dévoilera lequel des deux est esclave, Kinyan Kaspo Karinabe. On pourra donc déclarer cet esclave comme ayant été acheté par l'argent du Kohen, en d'autres termes, comme appartenant au Kohen. C'est pour cela, même si, à cause du doute, son maître ne peut pas la servir, il est quand même considéré comme étant l'esclave de son maître tant qu'il n'a pas été affranchi. Haha, mais ici, dans ce cas de l'esclave qui attend le titre d'affranchissement, mais par exemple, son maître s'est dépossédé de ses droits. Finalement, il n'est plus sous l'autorité de son maître. On aurait pu dire, Haha, lav kinyan kaspo uklal, peut-être que nous dirons qu'il n'appartient pas du tout au Kohen, il ne devrait donc pas pouvoir consommer de la Trouma. Finalement donc, cette question reste sans réponse. Nous avons fini ici le shiur de Gittin Daf Membet. Nous commençons le shiur de Gittin Daf Mem Gimel. Nous commençons Daf Membet Amud Bet à la sixième ligne du bas de la page. Nous avons mentionné plus haut dans la Gemara que le taureau déclaré en corneur, c'est-à-dire le taureau qui a encorné et tué au moins trois personnes, et que son propriétaire a été mis en garde. Il s'agit d'un cas où ce taureau n'a pas pu être attrapé pour être mis à mort. Et puis, ce taureau a encorné un esclave. La loi est que le propriétaire de ce taureau devra payer une amende fixe d'un montant de 30 shekels. Cette amende est fixée par le tribunal uniquement après un témoignage de témoin. Par contre, si le propriétaire de ce taureau vient avouer devant le tribunal que son taureau a encorné un esclave, celui-ci sera exempté de cette amende. En l'Agmara se pose la question suivante. Ibaya lehu. Les Chachamim se sont posés la question suivante. Eved shemachro rabo leknas. Un esclave qui aurait été vendu par son propriétaire simplement pour l'amende en question. C'est-à-dire, il a vendu cet esclave de manière à ce que si celui-ci sera encorné par un taureau, l'amende reviendra à l'acheteur. Il s'agit ici d'un cas, comme Tosfot le précise, où l'esclave a été vendu pour son amende. Ce n'est pas simplement l'amende qui a été vendue, parce que ceci est une chose abstraite qui n'existe pas, qui ne peut pas être vendue. Alors dans ce cas, l'Agmara se pose la question, Machur ou Eno Machur, est-ce que cette vente est valable ou non? Alors l'Agmara précise, Tibae le Rabbi Meir, on peut se poser la question selon l'opinion de Rabbi Meir, qui sera expliquée par la suite, Tibael et Rabbanan, on peut se poser aussi la question selon l'avis des Chachamim qui discutent avec Rabbi Meir. La Gemara précise, Tiba et Rabbi Meir, on peut se poser la question selon l'opinion de Rabbi Meir, parce que Adkan lokama Rabbi Meir, jusque là nous avons vu l'opinion de Rabbi Meir, Adam Makned avant Shelobala Olam, qui dit qu'une personne peut vendre une personne, un objet qui n'existe pas encore, qui viendra par la suite. Et là, c'est seulement dans le cas que Gol Perod Dekel, comme celui qui vend les fruits d'un palmier, qui pousseront par la suite David et Atou, c'est une chose qui habituellement viendra. C'est pour cela que cette vente est valable. Aval Haha, mais ici dans notre cas où il a vendu cet esclave pour l'amende qui reviendra à son propriétaire, Miyemar de Mingar, qui nous dit que cet esclave sera encorné par un taureau, Vim Tim Tselomar de Mingar, et même si celui-ci sera encorné par la suite par un taureau, Mimai de Meshalem, d'où est-ce que nous savons que le propriétaire du taureau devra payer cette amende?
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.